commencer ce journal, une nouvelle étude parue aujourd'hui dans Science, étude qui prouve que les néonicotinoïdes ont des effets délétères sur les oiseaux migrateurs.
C'est peu surprenant, on connaît les effets collatéraux de ces produits sur d'autres espèces comme les abeilles et on a déjà montré qu'il y avait un lien entre les pesticides et le déclin des oiseaux. Mais la nouveauté, cette étude parvient à le quantifier et à révéler un des mécanismes impliqués. Une équipe canadienne a mené une expérimentation sur une trentaine de passereaux. Une partie d'entre eux a consommé un des néonicotinoïdes les plus courants et un autre groupe contrôle a suivi le même régime mais sans cette substance. Ils étaient également équipés de nouveaux petits émetteurs radio pour retracer leur migration. Alors d'une part, on observe que ceux qui consomment des pesticides perdent beaucoup de poids, alors que précisément les oiseaux doivent faire des réserves avant de partir en migration. Et d'autre part, cela les affaiblit au point de retarder leur envol migratoire de 3 à 4 jours. Frédéric Giguet est professeur au Musée national d'histoire naturelle en ornithologie et en biologie de la conservation.
Il y a deux informations, c'est qu'on a effectivement un impact direct sur la physiologie, l'état de santé des individus, que l'on sait que des décalages de date de migration peuvent avoir des conséquences sur les capacités des oiseaux à passer au bon endroit au bon moment, à éviter des ouragans si c'est en automne, ou au printemps à revenir assez tôt pour se reproduire. Et les migrateurs qui arrivent trop tard au printemps vont être en décalage par rapport à leurs ressources alimentaires, que ce soit les chenilles par exemple. Au cours de l'évolution, en fait, les oiseaux se sont calés sur le pic d'abondance de la nourriture dont ils ont besoin pour leurs poussins. Si les oiseaux migrateurs arrivent 10 jours plus tard à cause de telle ou telle raison, au moment où les poussins auraient besoin de plus de nourriture, le pic d'abondance des chenilles est déjà passé, elles sont toutes en chrysalide, il n'y a plus de nourriture pour les poussins. Donc ils meurent, donc il y a moins de poussins, moins de jeunes qui s'envolent, moins de jeunes pour renouveler naturellement la population et des espèces qui déclinent. C'est une étude importante et qui montre un effet chez une espèce sur les dates de migration et le départ en migration. On ne connaît pas forcément tous les mécanismes. On peut dire que si on met plus de pesticides, il y a moins d'oiseaux. Alors est-ce que c'est parce que ça tue les insectes qui peuvent plus se nourrir, ils se reproduisent plus? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Donc là, on a une mesure d'un mécanisme possible. C'est certainement pas le seul. Il va falloir continuer à travailler. Il faut continuer à regarder sur les grandes bases de données de suivi de biodiversité si on peut mettre en relation l'utilisation de pesticides et la disparition de la biodiversité.
En bref, dans une étude publiée hier dans le journal Joule, un nouvel appareil utilise la différence de température entre le jour et la nuit pour produire de l'électricité.
Ce nouveau générateur d'énergie de 20 cm de diamètre fonctionne le soir et c'est une sorte de panneau anti-solaire. Ce prototype utilise le refroidissement radiatif, le phénomène qui, après le coucher du soleil, rend les bâtiments et les parcs plus frais que l'air ambiant. Le noyau de cette machine est un générateur thermoélectrique. Lorsque sa partie supérieure se refroidit la nuit, la partie inférieure récupère la chaleur du sol. Il convertit ensuite la différence de chaleur en électricité. Le prototype connecté à un convertisseur de tension a réussi à alimenter une ampoule LED. Donc oui, ce n'est pas la solution énergétique de demain, mais c'est une preuve de concept.
Et selon une étude parue dans la revue Cell Metabolism, les eaux libèrent une hormone qui nous aide à faire face au danger.
Face à une menace, notre rythme cardiaque et notre respiration s'accélèrent, notre tension artérielle et notre température corporelle grimpent. On sait que ce sont les voies nerveuses du cerveau et les hormones des glandes surrénales qui coordonnent tout ça. Une équipe américaine vient de mettre en évidence un autre ingrédient qui gère nos systèmes de défense. Après diverses expériences sur des humains et sur des rats, on constate qu'en période de stress, les os libèrent de l'ostéocalcine. L'hormone permet de soutenir les muscles pendant l'effort et elle participe à l'ensemble de la coordination de l'action.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, l'observation d'un pulsar confirme une fois de plus les prédictions de la théorie de la relativité d'Einstein. Les données viennent d'être publiées dans la revue Science.
Et encore une fois, Einstein avait raison. Découvert en 2005, ce pulsar est en orbite autour d'une étoile à neutrons. Il pèse environ 400 000 fois la masse de la Terre, mais il tient dans une boule de 10 km de diamètre. Puisqu'il est ultra dense, son intensité gravitationnelle devrait déformer l'espace-temps. Alors dès 2005, on se doutait que ce pulsar montrait des signes de précession. La précession, c'est le changement d'orientation de l'axe de rotation d'un astre qui, dans le cas du pulsar, est provoqué par l'influence gravitationnelle de l'étoile à neutrons qui l'accompagne. Pendant 14 ans, les astronomes de l'observatoire de Max Planck en Allemagne ont observé les faisceaux d'ondes radio émises par les pôles magnétiques de l'étoile. Non seulement ils ont mesuré avec précision les caractéristiques de ces ondes, et elles correspondent au modèle, Mais en plus, cette découverte va permettre de mieux quantifier le nombre de pulsars binaires dans notre galaxie. Grégory Desvignes est astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Il a dirigé cette étude.
Quand on analyse la polarisation de l'émission, on a des modèles qui nous informent sur la géométrie de ce système, qui nous donnent l'angle de la ligne de visée. On voit que cet angle change en fonction du temps. Donc ça nous renseigne que notre ligne de visée coupe le faisceau d'émission du pulsar à différentes valeurs, différents angles, et qu'à un moment, notre ligne de visée est passée juste au-dessus du pôle magnétique, et qu'en ce moment, on s'éloigne au fur et à mesure. C'est un pulsar qui permet de faire plusieurs tests. Donc ce système permet de faire le meilleur test et la meilleure contrainte de l'effet de précession relativiste, un test avec une précision de 5% qui va s'améliorer au fur et à mesure des observations. Deuxièmement, ce système nous a renseigné pour la première fois sur la structure assez complète d'un faisceau d'émission d'un pulsar, donc notamment au moment où notre ligne de visée était juste au-dessus du pôle magnétique, et ça nous informait sur le fait que l'émission n'était pas de forme, on va dire, circulaire, parce qu'on a un faisceau d'émission conique ou autre, mais que cette émission était plus de manière allongée. On comprend mieux la structure d'émission des pulsars. On pourra remonter à une meilleure estimation du nombre total de pulsars dans notre galaxie, donc le nombre total de systèmes où on voit deux étoiles à neutrons, deux pulsars, et qui a des conséquences pour les taux de détection des détecteurs d'ondes gravitationnelles terrestres comme LIGO, Virgo.
Et en bref, une deuxième comète interstellaire s'apprête à traverser notre galaxie.
Après la découverte de Oumuamua en 2017, voici la comète Borisov. 6 fois plus lumineuse que sa consœur, elle devrait traverser notre système solaire dans quelques semaines. Alors on est bien sûr qu'il s'agit d'un objet interstellaire, car son orbite hyperbolique indique qu'elle échappe à la gravitation du Soleil. Borisov sera visible pendant près d'un an.
Toute cette semaine dans le Journal des Sciences, que vous pouvez retrouver en podcast ou sur franceculture.fr, nous avons parlé pêle-mêle de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-12b. Nous avons vu notamment le fossile virtuel d'un ancêtre d'Homo sapiens. Nous avons vu comment le nombre de cas de séropositivité reculait à Paris. Également une étude sur le rajeunissement cette semaine, mais également sur le rajeunissement cellulaire, pardon, mais également cette semaine, Natacha, en ultra bref.
En ultra bref, pour sauver de l'extinction le rhinocéros blanc du Nord, une équipe internationale a congelé 2 embryons. Ils ont utilisé des ovocytes des 2 dernières femelles et du sperme congelé des mâles décédés. Le dernier mâle de cette espèce est mort l'an dernier. Les embryons devraient être transférés dans des mères porteuses, des rhinocéros blancs du Sud. La politicienne bulgare Maria Gabriel devrait devenir la prochaine chef de la recherche européenne. Sauf que dans son nouveau titre, les mots « recherche » ou « science » ont disparu. Si le Parlement européen l'approuve, elle deviendra en novembre « commissaire à l'innovation et à la jeunesse », un titre qui inquiète la communauté scientifique quant à la place des sciences au sein du pouvoir exécutif. Et enfin, les amants de Modem, les 2 squelettes datant du 4e siècle et enterrés main dans la main, ces squelettes sont ceux de 2 hommes. L'équipe italienne a trouvé dans l'émail de leurs dents une protéine, la protéine Y, que l'on ne trouve que chez les hommes.
Ce sont les amants de Modem, hein. Le Modem, c'est un parti politique, on va éviter de se tromper.
Modem en Italie, oui.
Oui, c'est ça. Et comme chaque semaine, on va terminer avec notre rubrique que vous attendez toutes et tous, celle des sciences improbables. Et c'est un peu le moment de triomphe de la rubrique de sciences improbables de l'année, puisque hier soir s'est déroulée la 29e cérémonie des prix Ig Nobel, les Nobel des sciences improbables, Natacha.
Cette parodie des Nobel récompense les études dites insolites mais qui font réfléchir. Alors parmi les lauréats cette année, 2 Français pour le prix Ig Nobel d'anatomie. Bourras Benghoudifa et Roger Mieusset ont été récompensés pour leurs travaux sur la température des testicules. Peu importe vos vêtements ou votre activité, le scrotum droit est plus chaud que le gauche. Le prix Ig Nobel de chimie a été remis à une équipe japonaise pour son étude sur la quantité de bave qu'un enfant de 5 ans est capable de produire.
8 litres.
Presque.
Par minute.
500 millilitres de salive par jour.
Ce qui est pas mal déjà.
Et le prix Ig Nobel de la paix a récompensé une recherche anglaise de dermatologie qui répond à une question. Pourquoi éprouve-t-on du plaisir à gratter nos croûtes, et en particulier celle de la cheville plutôt que celle du bras?
Voilà. Vous tous qui avez des croûtes aux chevilles, maintenant vous êtes reconnus.